tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Alors, excuse-moi, c'est pas forcément lié, mais un petit peu quand même. Du coup, l'instinct maternel, ce qu'on appelle l'instinct maternel, le désir d'enfant,
ouais.
Ça existe pas en fait? Ou ça existe? Est-ce que c'est purement féminin? Non, je sais pas, je me suis toujours demandé, est-ce qu'on nous mentirait pas un peu? Tu vois, le fait de dire, une femme, si, elle a forcément besoin d'avoir des enfants.
Alors là-dessus, forcément... on nous ment, oui, ça c'est sûr. Voilà. Non, ça je suis complètement d'accord, ça n'existe pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en tant que femme, on est obligé de se poser la question. Parce que la société fait que justement si on décide de pas avoir d'enfant, on va nous dire ah bon t'es sûre hein? Donc c'est une question qui se pose en tant que femme, peut-être qu'en tant qu'homme je pense qu'elle se pose aussi, mais peut-être de manière moins criante que en tant que femme, parce que en tant que femme on n'a pas la même horloge biologique et puis c'est nous qui portons les enfants dans notre corps, donc ça fait quand même des différences.
Psychologue clinicienne de formation, elle est également auteure du livre La puissance du féminin sacré. Messieurs, restez là parce que cet épisode vous concerne tout autant que les femmes. Elle inscrit sa pratique dans une démarche féministe pour, comme elle le dit, penser la liberté des femmes et leur empowerment. Elle porte en elle un éclairage non clivant, axé sur l'équilibre entre ce que chaque personne, homme ou femme, porte en elle de féminin et de masculin. Avec elle, nous avons abordé des sujets qui me tiennent à cœur, la puissance féminine comme vecteur d'émerveillement, autant chez l'homme que chez la femme, l'enfant divin, la femme sauvage, la maternité, l'image de guerrière fabriquée par le patriarcat, et surtout un sujet qui me concerne personnellement, les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Je sais, je changerai peut-être d'avis, et en tout cas cet épisode m'a beaucoup éclairée. J'espère qu'il vous plaira, et surtout vous aidera à voir plus clair en vous, en l'autre, ou les deux. Alors maintenant, j'arrête de parler, et je laisse la parole à l'éclairante Camille Sfez.
Camille, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast.
Merci à toi.
Je suis ravie et honorée aussi parce que, comme je te le disais avant d'appuyer sur le bouton start, tu as écrit un bouquin qui, selon moi, apporte un regard bienveillant sur les rapports hommes-femmes, et c'est très important pour moi de parler de féminin sans monter un camp contre l'autre. Donc je vais commencer par te demander, si tu le peux, de te présenter autant professionnellement que personnellement.
Oui, alors déjà merci de m'accueillir dans ce podcast. Alors moi je raconte souvent que j'ai un double parcours professionnel. J'ai commencé mes études en tout cas dans quelque chose de très élitiste. Moi j'étais à l'ESSEC, donc poussée à faire une école qui me permettrait de faire tout ce que je veux dans ma vie et qui a bien construit en moi la guerrière et celle qui adhère à la compétition. Enfin, qui adhère, en tout cas, qui a baigné là-dedans. Et puis, en fait, arrivée dans cette école, je me suis sentie vraiment, vraiment en décalage. J'avais besoin assez tôt de trouver du sens. Et aussi, tout de suite, en fait, à mon arrivée à l'école, j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui, en tant que femme, est-ce qu'il y avait quelque chose en tant que femme qui m'était propre, je dirais, parce que je voyais ça un petit peu comme une porte de sortie de ce rôle de la guerrière, en fait. Intuitivement, je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais en tout cas, je me rendais bien compte que on me demandait de faire des choses qui me paraissaient masculine, et ça aussi pareil, c'était un peu intuitif, j'ai mis du temps en fait à construire après une pensée autour de ça, mais en tout cas très tôt j'avais envie d'échapper à ce rôle et j'avais envie d'être au service en fait, d'être là pour aider les autres.
T'avais une inspiration personnelle, c'est-à-dire autour de toi, tes parents, cette envie de se positionner différemment, ça devenait...
Ça me venait du schéma familial qui était pour le coup très caricatural. Moi, on m'a appris à être... on m'a dit, en tant que femme, tu seras comme un homme, tu feras ce que tu veux, tu seras indépendante, t'es intelligente.
Voilà.
Ce qui est vrai, hein. Mais par contre, à la maison, j'avais un modèle d'un père... voilà, dans la réussite sociale, beaucoup dans l'apparence.
Il faisait quoi dans
mon père,
enfin, si tu veux pas en parler,
non bien sûr, il est expert comptable. Après il a monté son cabinet d'expertise et puis il fait surtout des affaires en fait. Ouais. On va dire que c'est un homme d'affaires, voilà, qui investit, rachète un peu tout ce qui voilà. En tout cas, quand j'étais enfant, je le voyais beaucoup dans... Enfin, j'entendais beaucoup, enfant et ado, ce discours de... Un certain discours de la réussite. Et je voyais d'ailleurs aussi à l'essai avec les gens autour de moi qui y adhéraient. Enfin, il y avait quelque chose comme ça d'attrayant et en même temps dans lequel je ne me suis jamais reconnue. Et à côté de ça, ma mère était une artiste. Enfin, elle est toujours, mais mère au foyer... qui exposait pas beaucoup, qui travaillait pas. Donc du coup, j'avais pas tellement de modèles, justement, de femmes qui étaient épanouies, libres, intelligentes et qui réussissaient et qui n'étaient pas dans ce modèle de la réussite qui, moi, en fait, me paraissait tellement faux. En fait, je crois que c'est juste que je voyais un décalage énorme entre... l'apparente réussite de mon père, et puis ça, ce que je percevais en tout cas comme étant ça, son épanouissement personnel en fait. Et donc, ouais, je suis arrivée à l'ESSEC, j'étais en dépression, j'ai rencontré un thérapeute qui m'a tout de suite, en fait, lui, il travaillait beaucoup autour du masculin et de comment les hommes peuvent...
C'était un homme,
ouais. Donc ça m'a fait du bien d'avoir cette figure-là masculine qui m'a dit « Va voir les cercles de femmes, il y a peut-être quelque chose à trouver pour toi. » Et là, j'ai donc découvert en même temps, je dirais, le monde du développement personnel et le monde des cercles de femmes. Et ça m'a... ce que j'ai découvert, c'était en fait vraiment la puissance de l'authenticité, la puissance de la vulnérabilité, de se connaître, d'accepter les endroits où je suis pas parfaite, justement, moi qui avais tellement été construite avec une idée que si j'étais pas parfaite, j'allais en gros mourir, quoi, enfin, ou alors j'allais être au banc de la société. Et donc là, je me rendais compte que, en fait, ces femmes que je rencontrais, toutes leurs imperfections, c'était des endroits où elles avaient pu construire leur puissance d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment très fortement impactée. Enfin, je me suis tout de suite dit qu'il y avait quelque chose à aller voir de ce côté-là. Donc, je finis l'ESSEC, je change d'orientation professionnelle, je reprends mes études pour devenir psychologue. Et puis, donc en parallèle de ma formation de psychologue, je fais beaucoup de développement personnel pour moi, voilà, dans les cercles, mais aussi je m'intéresse pas mal à la médecine traditionnelle amazonienne, voilà, au rêve éveillé, enfin un certain nombre de pratiques. Qui m'amène petit à petit à construire ce que je fais aujourd'hui auprès des femmes d'abord. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut... comment développer notre sensibilité pour être plus en contact avec ce qui se passe réellement et pas simplement justement dans toutes les croyances que je peux avoir, dans mes filtres, dans... Et donc vraiment tout ce travail sur ouvrir ses perceptions, ouvrir son corps d'écoute, sa sensibilité... finalement pour être plus à l'écoute de soi, plus à l'écoute du vivant.
Du coup, est-ce que tu peux juste définir, parce que moi c'est clair pour moi, mais les cercles de femmes en fait, la notion de cercle de femmes, un petit peu rappeler l'histoire de leur fondation, parce que je pense que, enfin moi ça me parle, mais ça parle
bien sûr,
pas à
ça
monde.
Parle pas à tout le monde, c'est vrai. On en parle de plus en plus aujourd'hui, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est encore très courant, hein, et je dirais il y a 2-3 ans personne ne parlait de ça. Moi j'ai découvert ces cercles d'abord en Angleterre, et c'est plutôt quelque chose, je pense, qui vient des États-Unis au départ. C'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui travaillaient dans le monde du développement personnel qui ont créé ces espaces où on se réunit que entre femmes, avec l'idée qu'il y a des choses qui ne peuvent se dire qu'entre femmes. Donc il y a des choses, notamment tout ce qui a trait à notre corps, donc par exemple à la maternité, aux accouchements, faut se coucher, aux avortements, aux abus, toutes ces choses-là, c'est des sujets dont on peut parler plus facilement quand on n'est que entre femmes.
C'est sûr.
Donc, elle crée ces espaces pour que les femmes puissent finalement se, déposer ces choses dont on ne parle pas ailleurs. Et puis, du coup, je sais pas si c'est, je sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, émerge aussi aux États-Unis une idée que, en tant que femme, on peut enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a plu dans ces espaces, c'est l'idée que on est en équanimité avec les hommes, c'est-à-dire qu'on a la même valeur, mais le fait de croire que je suis comme un homme et que je devrais avoir exactement les mêmes droits, enfin droits évidemment, mais les mêmes places que les hommes, c'est en fait un filtre du patriarcat. C'est le patriarcat qui nous fait croire que pour être libre et épanoui, il faudrait qu'on soit comme les hommes et qu'il n'y ait aucune différence avec les hommes. Et en fait, les femmes dans ces espaces-là, elles découvrent que, bien sûr qu'on a la même valeur, mais on a peut-être autre chose à apporter. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vachement touchée. Voilà, tout de suite, je me suis dit, ben oui, enfin, en tout cas, pour moi, c'était la porte de sortie de la guerrière, qui ne veut pas être comme un homme, qui ne veut pas forcément être à la même place qu'un homme, mais par contre, qui veut que sa place soit respectée et valorisée de la même manière. Et donc, par exemple, ça veut dire, parce que du coup, c'est pas forcément très clair, mais. Ça veut dire, enfin là en même temps quand je te dis
mais
ça,
si.
Je dis...
non mais enfin pour moi c'est très clair, c'est-à-dire de dire certes il nous faut une égalité salariale, une égalité de droit, une égalité humaine en fait tout
même
simplement,
de, enfin de du pouvoir, humain, voilà. De décision.
Mais par contre on peut peut-être plus basculer vers une complémentarité que vers une égalité au sens où on se met en confrontation
oui.
Et on essaye de jouer un jeu en fait.
Oui.
En se prétendant être ce qu'on n'est pas.
Oui. Donc, il y a la question de l'égalité. Et puis, il y a la question aussi de... Bah, si les femmes assument de prendre le pouvoir à leur manière, ça ouvre une possibilité, en fait, pour cette notion de pouvoir ou voilà, de liberté ou d'empowerment. Ou on peut mettre plusieurs choses derrière. Mais ça ouvre une nouvelle manière de prendre le pouvoir, en fait. Et ça, c'est peut-être bon pour les hommes aussi.
Bien sûr. Mais d'ailleurs, on va en parler parce que le pouvoir, en l'occurrence, toi, tu parles de puissance dans ton bouquin.
Ouais.
Enfin, le titre de ton bouquin, c'est La puissance féminine.
Mmh.
Et à un moment, en lisant le titre, je me suis dit, mais finalement, cette puissance féminine peut être trouvée autant chez une femme que chez un homme. C'est-à-dire que si c'est quelque chose que tout le monde peut s'approprier. Mais justement, je voudrais qu'on parle un petit peu de ton bouquin, si ça te dérange pas.
Ouais.
Sauf si je te laisse, je t'ai peut-être coupé
développement.
Ton livre, quel a été l'élément déclencheur pour écrire ton bouquin? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as voulu... Donc, c'est un livre qui est sorti il y a un an et demi, je crois. Il y a forcément un souhait. J'aime bien cette phrase quand j'ai un auteur face à moi. C'est qu'est-ce que tu as voulu faire et défaire en écrivant ce livre? Et à partir de quand tu t'es dit, je prends la plume et je vais écrire? C'est-à-dire, quel a été l'élément déclencheur?
Alors, j'avoue que j'ai été pas mal poussée par la vie pour l'écrire, parce qu'il y a plusieurs éditrices qui m'ont proposé d'écrire. Et puis, il y en a une, notamment, qui m'a vraiment convaincue de le faire. C'est vrai que moi, j'étais... Je sais pas, je crois qu'il y avait aussi une question de pas me sentir capable.
Tu lis beaucoup toi-même, personnellement. T'es très instruite. Donc, t'avais quand même peut-être une sorte de... Comme beaucoup de gens qui lisent beaucoup et qui sont très instruits, ils disent « Non, mais je veux quand même pas passer le pas. »
C'est ça. C'est-à-dire que quand tu dis ça, c'est tout de suite la comparaison. Tu vois, évidemment, qu'est-ce que... Moi, c'est pas mon métier d'écrire. Moi, je suis psychologue. Donc... Oui, je savais que je savais écrire parce que dans mes études, on m'a appris à écrire. Mais en même temps, je me suis dit « Bon, voilà, c'est pas mon métier, je saurais pas faire. » Et puis en fait, l'élément déclencheur, ça a été vraiment de me dire j'ai envie que les femmes connaissent ces espaces que moi je connais, donc ces cercles, qu'elles les connaissent de l'intérieur, qu'elles y aillent. Et je sentais que j'étais à la bonne place pour parler de ce qui se passe dans ces endroits qui étaient tellement peu courants, tellement cachés, tellement mystérieux. Et moi, je voyais qu'il y avait beaucoup de transformations qui se passaient dans ces espaces. Donc j'avais vraiment envie de le faire connaître au plus grand
nombre. C'était concret.
Ah oui, c'était vraiment... Mais ça faisait déjà... Moi, du coup, ça fait une petite dizaine d'années que j'anime des cercles. Un petit peu moins, mais bon, du coup, ça faisait 6-7 ans que j'en animais quand j'ai commencé à écrire, quelque chose comme ça. Donc, je savais que c'était précieux. Et j'avais, envie de le diffuser.
Et justement, ces cercles, ils sont gratuits. Comment ça se passe concrètement? Tu vois, si demain, quelqu'un nous écoute et dit, tiens, ça m'intéresse.
Donc, il y a plein de formes différentes. En fait, ce qu'il y a... de riche et en même temps on peut pas les cadrer quelque part. C'est que cercle de femmes, ça veut simplement dire qu'on propose à des femmes ensemble de se réunir et de s'asseoir en cercle. Après, ce qui s'y passe, c'est hyper vaste en fait, et en fonction des femmes qui animent des cercles, elles vont proposer des choses très différentes. A priori, la définition commune, c'est que ce qu'on fait, c'est surtout parler. C'est surtout un espace de parole et qui a pas spécialement d'autres techniques. Sinon, on appelle ça un cercle de chant, de
D'accord.
rituel, de voilà. Mais en fait, si donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'espaces comme ça où les femmes se réunissent entre elles, qui se créent. Moi, j'ai longtemps soutenu un mouvement qui s'appelle les Tentes Rouges, aussi parce qu'en fait, ces Américaines et ces Anglaises qui m'ont enseigné ces espaces, qui m'ont fait découvrir ces espaces, elles ont créé des mouvements comme ça aux États-Unis. Mm-hmm. Je pense à Diana Lamb, qui a créé le Red Tent mm-hmm. in Every Neighborhood, mm-hmm. Alyssa Starkweather, enfin voilà, des femmes qui ont créé des mouvements de Tentes Rouges. Et donc, c'est vrai que moi, quand j'ai créé un cercle de femmes, je l'ai appelé une Tente Rouge au départ. Et ce qu'il y a dans la Tente Rouge, c'est vraiment l'idée que la femme qui anime, c'est une femme parmi d'autres, quoi. C'est pas une thérapeute, elle a pas une compétence particulière. Elle a juste fait l'expérience d'être dans ces cercles de manière régulière et du coup, elle peut en créer avec les femmes autour d'elle. Donc, il y a vraiment l'idée que ça pourrait se développer partout dans chaque quartier. Et ça, je trouve que ça a de la valeur. Mmh. Et les Tentes Rouges, aujourd'hui, les femmes, en tout cas de mon réseau qui en anime, elles demandent 15€. Donc c'est pas gratuit, mais c'est vraiment oui. pour 3 heures, c'est symbolique quoi. Enfin, mmh. c'est parti. Les frais mmh. de la salle, gérer les inscriptions, etc. Mmh. Mais il y a vraiment l'idée que il y a une égalité. Toutes les femmes autour du cercle, il y en a une qui anime, mais on est toutes à la même place ou presque. Mmh. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Ensuite, il y a voilà, des cercles qui proposent d'autres choses. Moi, aujourd'hui, j'anime plus beaucoup de Tentes Rouges. J'anime des cercles où je propose des enseignements ou du travail de supervision, des choses mmh. comme ça. Donc, et puis, il y a des femmes qui animent des cercles avec des rituels, des pratiques. Du coup, c'est aussi payant. Hein. Mmh. Mais en tout cas, originairement, il y a cette idée que en fait, n'importe qui pourrait dans son salon réunir des femmes et en faire un avec les outils qu'il faut, parce que justement l'enjeu c'est que ce soit pas comme un cercle de copines quoi, ouais. que ce soit pas une réunion où on va juste parler comme d'habitude.
Donc il y a un protocole ou quelque chose comme ça.
Ouais, il y a des outils de communication, vraiment une manière de prendre la parole qui fait que, notamment le fait que personne va rien dire sur ce que je dis, c'est-à-dire que moi je vais partager quelque chose, mais après on m'en parlera plus, on posera pas de questions, on me demandera pas on me donnera pas son avis. Et donc, la parole de cette manière-là devient sacrée ou en tout cas non, particulière.
T'es pas dans le jugement ou t'es pas dans le...
Il y a pas de ouais. jugement, il y a pas de commentaire, il y a même pas quelqu'un qui me dit ah j'ai vécu la même chose, tiens voilà ce que j'ai vécu. Donc ça installe une présence en fait particulière et ça fait que du coup je parle pas en réagissant à ce que disent les unes et les autres. Je parle vraiment, c'est vraiment un processus pour apprendre à se connecter à ces profondeurs, on va dire, ou l'espace de tranquillité à l'intérieur où je vais pouvoir entendre. En fait, quand je parle dans un cercle, j'entends quelque chose de ma vérité. Tout d'un coup, je suis surprise, comme chez un psy, on a un insight, on s'entend dire quelque chose et tiens, on a compris quelque chose de son histoire. Bah, ça peut aussi se passer en cercle parce que on parle de cet espace de silence à l'intérieur.
J'ai écouté une interview de toi qui a vraiment résonné en moi. Parce que tu disais, pour se soigner le monde, en l'occurrence, enfin, en tout cas, aider le monde ou l'autre, enfin, quand je dis le monde, c'est, ça peut être sa voisine, mais c'est, il faut se soigner soi-même. Et j'aime bien la notion de soin, enfin, je sais pas si c'était vraiment le soin que tu as utilisé comme terme, mais c'était plutôt, voilà, pour changer le monde, il faut se changer soi.
Ouais.
Moi, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience, en fait, il y a pas très longtemps. Et j'aimerais bien que tu développes un tout petit peu, si tu vois, cette notion, parce que je pense que c'est très important que les gens l'entendent.
Oui, alors c'est sûr que ça, c'est mon regard de psychologue aussi qui me fait dire ça. Hein. Mais je vois beaucoup de gens qui ont envie de changer le monde et qui, du coup, croient qu'il faut... Enfin, bien sûr qu'on peut changer les choses à l'extérieur, mais si on les change pas à l'intérieur, on va toujours porter nos mêmes filtres sur le monde. Mmh. Et d'une certaine manière, quand même, c'est beaucoup plus facile de croire qu'il suffit de... manger bio, ne
porter
plus...
des tote bags,
voilà, pour que le monde change, ouais. et surtout ne pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'en fait, se changer soi, c'est assez inconfortable. Oui. Ça passe par regarder tous les endroits à l'intérieur de moi où je suis pas comme j'aimerais être. Donc en fait, c'est
ça passe souvent par une rupture. En plus, il y a forcément une petite crise ou un truc, enfin pas au sens négatif, mais il y a forcément un
oui. Bien sûr,
inconfortable, mais et qui peut nous arriver aussi sans l'avoir décidé.
Oui, donc parfois ça nous tombe dessus, ouais. Exactement. Voilà, un événement extérieur, la vie nous rappelle que là, en fait, on s'est un peu éloigné ouais. de nous-mêmes. Mmh. Parfois, c'est simplement... Enfin, moi, dans mon cas, par exemple, j'ai été tellement mal, tu vois, c'est la dépression qui a fait qu'à un moment, j'avais besoin de me retrouver, en fait. Mmh. Je pouvais plus continuer à vivre... avec moi-même, en fait, comme j'étais. Mmh. Mais c'est vrai que ce processus de se changer soi, c'est vraiment nous faire tomber de l'illusion, quoi.
Ouais.
C'est vraiment bah, se regarder en face, voir qu'il y a plein d'endroits, en fait, dans notre vie où on n'est pas comme on aimerait. Et puis, du coup, ben, aller changer nos relations, oser dire les choses qu'on n'a pas osé dire, oser pardonner aux gens... avec qui on n'a pas envie de pardonner. Et donc, c'est un travail qui est, voilà, qui est exigeant d'une certaine manière, enfin, qui n'est pas très confortable. Mmh. C'est pour ça que les gens, spontanément, préfèrent changer l'extérieur. Parce que c'est gratifiant aussi de changer l'extérieur, enfin, de sentir qu'on fait des choses pour changer le monde. C'est hyper valorisant. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui manque si on ne prend pas le temps de regarder mes pensées, mes modes de fonctionnement, mes relations avec les autres. Et donc ça c'est une manière de te répondre. La deuxième c'est aussi de regarder les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que le fait de changer qui je suis, donc en fait ça veut dire en gros d'apaiser mes conflits finalement, hein, d'arrêter d'être dans une forme de dualité, juste avant on disait les magazines féminins qui disent faut faire 3 kilos de régime avant l'été, bah ça veut dire qu'il y a une partie de moi quand même, enfin ça parle de l'amour de soi par exemple, hein. Développer de l'amour pour soi-même, être capable de valoriser qui je suis, mes qualités, mes défauts, en fait ça c'est pour moi c'est essentiel pour être d'abord en paix avec soi. Et puis du coup si moi par exemple je valorise qui je suis, ok, donc on va prendre cet exemple du corps, accepter mon corps avec ses 3 kilos en plus, ou accepter que je suis pas tout le temps performante et que j'ai besoin de ralentir, ou accepter que à l'intérieur de moi une colère énorme mais dont j'ai honte, que je laisse pas sortir mais qui fuite quand même de temps en temps quand je suis chez moi avec mes enfants par exemple, parce que cette colère ben c'est aussi la mienne, c'est pas que les autres, c'est méchant qui ont cette colère. Donc tout ça en fait ça fait que je peux vraiment réconcilier quelque chose à l'intérieur. Et je crois que cette réconciliation, c'est vraiment l'enjeu de la transformation du monde aujourd'hui, d'arrêter d'être dans l'opposition de tous ces contraires, mais de se dire, en fait, tout ça, ça vit à l'intérieur de moi. Et si je le reconnais, je suis plus victime de cette ombre. En fait, tu sais, ça, c'est vraiment une idée qui vient de Jung, qui dit que, donc Jung, il nous apprend que à chaque fois qu'on nous a dit qu'un comportement n'était pas autorisé, on l'a mis dans notre ombre. Donc quand on nous a dit arrête de pleurer, arrête de te mettre en colère, lalalala, tout ça en fait on le met de côté et on utilise beaucoup d'énergie pour surtout ne pas être en contact avec ce qu'on a mis dans notre ombre, qui est un peu comme une espèce d'énorme sac à dos qui se remplit à chaque fois qu'on ne s'autorise pas quelque chose, et qui tout d'un coup en fait est tellement énorme que... on passe une partie folle de notre énergie à contrôler ce qui pourrait potentiellement sortir de dangereux de ce sac à dos. Donc le fait de se regarder, faire un travail sur soi, c'est vraiment se dire, ok, en fait, tout ça, c'est des parties de moi qui sont pas agréables, des choses que j'ai refoulées, que j'ai reniées. Bah, je vais les regarder en face et je vais, d'une certaine manière, me les réapproprier. Évidemment, pas pour, quand je parlais de la colère, par exemple, pas pour exploser de colère à chaque instant, mais pour me dire, cette énergie-là, en fait, j'y ai droit, je peux la poser de manière claire, je vais pas forcément l'utiliser de la même manière qu'on l'a utilisée sur moi. Et du coup, je vais plus être coupée en deux. Et ça, ce processus d'unification, d'intégration, je pense que ça a un impact énorme sur l'état du monde.
Bah justement, voilà, quand on arrive à soigner ces oppositions, est-ce que c'est ça qui ne peut pas nous aider justement à construire un monde en alliance avec l'autre sexe ? Que ce soit homme ou femme, de se dire il y a cette forme d'équilibre à trouver en soi entre masculin et féminin, parce qu'on a tous du masculin et du féminin.
Ouais.
Est-ce que c'est pas ça qui nous permet aussi de vivre de manière beaucoup plus douce notre rapport à l'autre sexe ?
Oui, bien sûr, parce que en fait, on est dans ce patriarcat depuis des milliers d'années. Donc en fait, dans cette ombre dont je parle, il y a tout l'inconscient collectif et puis il y a toutes les histoires déjà juste simplement qu'on a vécues avec nos parents, avec les hommes et les femmes autour de nous qui nous ont élevés, puis les hommes et les femmes de notre vie, qui fait que il y a beaucoup de blessures dans la relation homme-femme. Il y a énormément de femmes qui ont vécu des abus de toutes sortes de la part des hommes qui étaient en position de domination et des hommes qui ont vécu des abus de la part des femmes qui étaient en position de domination. Hein. Donc il y a beaucoup de il y a beaucoup à réconcilier et c'est vrai que ça passe par faire la paix avec son histoire en fait, regarder son histoire. Alors tu parles de masculin féminin, je trouve que c'est toujours vraiment compliqué de parler de ces polarités en étant juste et en parlant des bons cadres de référence. Moi je parlerai, donc souvent on dit masculin féminin comme deux polarités à l'intérieur de nous, c'est un peu le yin et le yang. Hein, quand je parlais de la guerrière par exemple tout à l'heure, elle est plutôt yang, et puis celle qui est plus à l'écoute, elle est plutôt yin. Mais en même temps, yang et yin, c'est pas masculin féminin. Ce qu'on apprend quand on étudie la pensée chinoise, enfin moi je l'ai pas étudié mais j'ai juste compris ça et ça m'a beaucoup intéressée, c'est que en fait le fait d'avoir collé les qualificatifs masculin-féminin sur yang et yin, c'est venu vachement tard dans l'histoire de la pensée chinoise, c'est venu autour de Jésus-Christ, enfin la dynastie qui était à ce moment-là. Et en fait, c'est venu pour justifier le fait qu'on demande aux femmes de rester à la maison. Puisqu'on a collé féminin, on a collé yin, et on a dit, bah, du coup, comme vous êtes yin, vous allez rester à la maison. Et le yang, il est tourné vers l'extérieur, donc il va aller à l'extérieur. Donc c'est vraiment encore une fois, nous n'identifions pas masculin et féminin avec ces notions-là. Mais on a tous du yang et du yin à l'intérieur de nous, puisque, en tout cas, dans la pensée taoïste, c'est ce qui, l'énergie, elle est faite de ces deux polarités, chaud, froid, ensoleillé à l'ombre, etc. Donc on a tous ces deux polarités à l'intérieur de nous. Moi j'ai une autre définition du féminin qui m'intéresse beaucoup et qui n'est pas justement yin et yang, qui est une définition qui est donnée par Annick de Souzenel, enfin en tout cas moi j'ai découvert dans son travail. Annick de Souzenel, elle a écrit notamment Le symbolisme du corps humain. C'est une thérapeute qui a beaucoup étudié les textes bibliques et notamment les textes bibliques en hébreu. Et elle explique qu'en hébreu, masculin et féminin, enfin mâle et femelle, ça parle de deux parties à l'intérieur de nous. Mais le côté femelle, le côté féminin, c'est la partie de nous qui est en lien avec le divin. C'est la partie de nous qui est la plus mystérieuse. C'est la partie de nous qui nous permet de nous émerveiller, par exemple, devant un coucher de soleil. Et que la partie mâle, c'est la partie qui doit se souvenir de son côté féminin. Donc en fait, elle change complètement, c'est plus du tout yin-yang, enfin, c'est, en tout cas elle, dans son cadre de référence, c'est pas du tout ça dont elle parle. Elle parle vraiment de « on est tous mâles », c'est-à-dire qu'à la naissance, on a tous oublié cet autre côté de nous, qui est le côté féminin, en lien avec l'émerveillement et le divin, et on doit tous se souvenir de cette autre partie de nous, qui est en fait notre féminin. Mais ça, du coup, je trouve que cette lecture, elle est beaucoup plus inclusive et elle nous sort du féminin qui serait la douceur, masculin qui serait l'action. En fait, on s'en sort pas de cette dualité-là. Donc moi, j'aime beaucoup cette idée et c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir vécu ce processus-là ces dernières années, de m'ouvrir à la partie de moi qui est capable de s'en remettre, qui est capable de faire confiance à quelque chose de plus grand, qui est capable de s'émerveiller. Et en fait, c'est ça le féminin. Et je vois plein d'hommes qui sont dans cette démarche-là de s'ouvrir à quelque chose de plus.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Subtil, au fait que c'est pas que le mental qui décide, au fait qu'ils peuvent faire appel à ce qui est présent et surfer l'instant présent sans avoir besoin forcément de planifier ou de savoir. Et en fait, c'est ça le féminin pour moi. Enfin...
Mais du coup, ça, oui, ça les libère aussi, enfin, d'une certaine manière.
Bah oui, parce que c'est ça. Si on dit que le masculin c'est l'action, bah les hommes aussi, ils sont dans des injonctions. Moi, je côtoie beaucoup de femmes, donc j'ai plutôt l'habitude d'entendre des femmes souffrir du patriarcat. Mais les hommes, ils en souffrent tout autant. On est tous enfermés dans.
Ça me rappelle le livre d'Olivia Gazalet, Le mythe de la virilité. C'est étonnant. Pourquoi tu l'as pas lu? Je suis étonnée. J'essaie de comprendre.
C'est tous ces livres là qu'on me demande de lire qui arrivent. Voilà, j'ai une pile de livres à lire importante.
C'est bien, au moins t'es honnête. Ouais. Non, mais j'étais étonnée parce que c'est, je pense que
oui,
ça aurait pu, enfin, je pense que ça pourrait t'intéresser, mais il y a tellement de livres que c'est compliqué de suivre le fil. Dans ton livre, t'évoques l'héritage génétique, en fait, enfin, quasi pas vraiment, mais tu parles un moment de ça, enfin, tu vois, exactement.
Ouais.
C'est-à-dire de dire, et c'est marrant parce que j'ai interviewé une femme il y a assez longtemps, au tout début de mon podcast, Nathalie Rapoport-Huchmann, qui explique qu'on arrive sur Terre avec 60% de notre capital génétique,
ouais,
avec de l'émotionnel, en fait. C'est-à-dire que les gens oublient que quand t'arrives sur Terre, 60% de ta vie, enfin de tes émotions, en tout cas,
ouais,
ne t'appartiennent pas. C'est-à-dire que t'as,
ouais,
en résumé, si t'as une flopée, une lignée de dépressifs dans ta famille... T'as 60% de chance, quasiment, enfin je pense, hein, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais d'être dépressif, quoi.
Oui, ou en tout ou cas, dans tu le... portes ou... ça voilà, en toi, quoi.
Mais dans le sens inverse, si toute ta famille était très joyeuse, tant mieux pour toi. Mais ça, je pense que les gens, peut-être, ne l'ont pas vraiment assimilé.
Oui.
Parce que justement, on est dans cette ère de guerrier et de guerrière où on dit, mais non, je veux être qui je veux être, je suis qui je suis, je décide, libre arbitre, etc., quoi.
Oui. Donc, bien sûr qu'on a libre arbitre, heureusement, et voilà, on n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on a fait ce qu'on a fait de nous. Oui, bien sûr, et en même temps, du coup, ce que tu dis, c'est je peux pas être celle que je suis si j'ai pas conscience que je porte ces 60%, en fait. Et si j'ai pas conscience de mon histoire, de l'histoire transgénérationnelle, c'est-à-dire de l'histoire qui est passée de génération en génération dans ma famille, qui fait que moi, je suis à telle place de la famille, tel numéro, troisième enfant, premier enfant, troisième fille, que je suis en lien avec les dates d'anniversaire des hommes et des femmes de ma famille. Voilà, tout ça, c'est Anne Ancelin Schützenberger, hein, qui dit « Aïe mes aïeux ». Qui explique vraiment l'importance de prendre en compte cet héritage transgénérationnel, mais même simplement on peut y penser. Donc c'est bien plus vaste que l'exemple que je vais donner, mais un enfant, quand il est dans le ventre de sa mère pendant 9 mois, il est imprégné de ses émotions. Donc l'état émotionnel de la mère pendant 9 mois, ça influence énormément notre construction, en fait. Donc ce travail là de savoir qui je suis, c'est vraiment prendre conscience et puis accepter, en fait, que je suis héritière de ces lignées. Ça veut dire aller les regarder, en fait. Moi, j'ai vraiment... Il y a eu un moment où, justement, dans cette recherche sur qui j'étais en tant que femme, où j'ai vraiment essayé de comprendre quelle vie avaient vécu les femmes de mes lignées. Alors, ma mère, bon, c'était facile, je savais. Ou en tout cas, je pouvais avoir des idées, mais mes grands-mères, mes arrière-grands-mères, et puis les schémas qui se répétaient. Et puis bon, après, je vais dire de manière... Si on remonte encore plus loin, de manière plus lointaine, bah, c'est l'histoire des femmes en général que je porte, hein, et des hommes et des femmes. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que moi, aujourd'hui, je suis une femme, mais donc je porte l'héritage des femmes blessées, mais j'ai été... un homme dans d'autres vies, probablement, et j'ai été aussi de l'autre côté, hein, du côté de ceux qui avaient le pouvoir et qui en abusaient. Je veux pas dire que tous les hommes ont le pouvoir, mais en tout cas, pendant longtemps, il y a eu cette domination, même. Donc c'est vraiment faire la paix avec toutes ces... tout cet héritage, c'est-à-dire toutes ces guerres, en fait, toute cette guerre des sexes qui a duré pendant des milliers d'années.
Mais du coup, est-ce que tu penses que justement cette prise de conscience, parce que j'ai l'impression, après je peux me tromper, qu'il y a beaucoup de gens justement qui commencent à prendre conscience de tout ce que tu viens de développer, est-ce que c'est ça qui parfois force les femmes à pas faire d'enfants ? Tu vois, c'est-à-dire, est-ce que à un moment, puisque tu es psychologue, est-ce que le fait de dire, voilà, je sais d'où je viens, parfaitement. Ouais. Et c'est pour ça que je ne ferai pas d'enfant. Parce que je vois quand même beaucoup de femmes autour de moi qui décident de ne pas faire d'enfant.
Oui, c'est un énorme tabou encore aujourd'hui. Enfin, je trouve que c'est vraiment un sujet dont on parle pas. Enfin, on commence à en parler. Je sais pas. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup quand même. Des femmes qui font ce choix. Oui, bien sûr, ça peut. Donc, dans ce que tu dis, il y a des femmes qui font ce choix consciemment, c'est-à-dire qui apaisent leur lignée, qui comprennent, et puis comprendre cet héritage et le reconnaître, c'est aussi vraiment l'apaiser. C'est-à-dire, c'est se dire, en fait, tout ça. Moi, je parle, par exemple, je suis vraiment héritière d'une lignée de femmes blessées. C'est toutes ces blessures qui font que moi, aujourd'hui, Camille, dans ma vie, je suis en chemin sur cette question. Tout ce que j'ai construit dans ma vie, je sais pas, le fait de vouloir, je pense, à accoucher à la maison, le fait la manière dont j'ai choisi les choses dans ma vie, ça a été énormément influencé par cet héritage. Donc c'est les remercier pour ce qu'elles ont vécu finalement, même si c'était des choses hyper lourdes et hyper difficiles. Donc quand je les remercie et quand je fais la paix, je gagne de la liberté. Et cette liberté, elle me permet de faire un choix. J'ai envie d'avoir des enfants, j'ai pas envie d'avoir des enfants. Après, je vois aussi beaucoup de femmes
qui ont peur, non, de les
voilà, avoir. C'est ça. En fait,
peur de transmettre, en fait, ce qu'elles pourront pas maîtriser.
Oui, ou qui décident de pas avoir des enfants parce qu'elles sont encore prises dans cet inconscient qui est que c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Les femmes qui avaient des enfants dans ma lignée, soit elles sont mortes en couche, soit elles étaient à la maison malheureuses, soit elles se sont privées de leur liberté. Donc moi, en fait, je vais pas en faire, mais c'est pas conscient. Donc il y a les deux. Mais vraiment, ce travail de prise de conscience, il nous donne la liberté d'agir, je dirais, de pouvoir laisser de côté. C'est vraiment ce mécanisme de l'ombre. Tant que ça reste dans mon ombre, tant que c'est pas conscient, je vais l'agir dans ma réalité. Et à partir du moment où je prends conscience de ce qui s'est passé, je peux choisir. Et oui, bien sûr, je peux choisir aussi de me dire, moi, dans ma vie, je vais être heureuse sans être mère. Et là, je trouve que les femmes qui font ce choix-là, elles sont confrontées à ce tabou social qui est mais t'es sûre, mais ça va être trop tard, mais tu vas le regretter. Enfin,
oui, je suis bien placée pour.
Et c'est terrible. Enfin, il y a vraiment besoin de femmes qui parlent. Enfin,
Je pense qu'il faut en parler parce que en parlant, peut-être que certaines vont se dire oui, effectivement, je veux vraiment pas d'enfants, ou peut-être que les autres vont se dire si, finalement, je veux des enfants. Et je pense qu'il y a un sujet autour de ça parce qu'on nous explique justement trop encore aujourd'hui qu'on peut être tout, executive woman, avoir les enfants, perdre 3 kilos avant l'été, séduire. Enfin, il y a un sujet de formation, d'éducation, etc. Mais j'ai constaté aussi une chose, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes, là, de plus en plus, qui assument le fait de ne pas vouloir travailler, qui assument le fait de se dire, je travaille, mais je ne suis pas carriériste, ou en tout cas, je n'ai pas forcément envie de gagner des millions. Je trouve que c'est pas si mal en fait, parce qu'en se détachant de cette compétition, parce que c'est toujours une compétition, la carrière. Oui. Mais voilà, je trouve qu'il faut aussi se calmer un peu en fait. Il y a un sujet de calme à reprendre.
Oui, et puis il y a un sujet de, on a besoin d'autres modèles en fait. On a besoin de modèles de femmes qui sont épanouies sans enfants, et en fait, ça n'a jamais existé dans l'histoire. Enfin, les femmes qui n'avaient pas d'enfants jusqu'à aujourd'hui, c'était des femmes qui ne pouvaient pas en avoir ou qui étaient femmes seules. C'était pas des femmes qui consciemment faisaient ce choix librement. Et donc, on a besoin de décorréler aussi l'épanouissement d'une femme de la maternité, même s'il y a des femmes pour qui ça va avec. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est ce même processus de sortir de cet héritage. Et c'est ça qui est chouette dans la période dans laquelle on vit, c'est qu'on est vraiment en train d'inventer, déjà les hommes, les femmes. On voit qu'il y a plein de genres entre les deux, qu'il y a plein de manières de vivre sa maternité, il y a plein de manières de ne pas la vivre, il y a plein de manières de vivre sa carrière. Et donc pour moi, j'ai vraiment souffert de ne pas avoir de modèle en fait, et d'avoir juste un modèle hyper binaire de soit je suis une femme carriériste et du coup je m'épanouis pas à côté et je ne peux pas prendre du temps avec mes enfants, soit je suis une mère au foyer. Bon, aujourd'hui, heureusement. Et par exemple, avec ce média-là, le fait d'entendre de plus en plus de voix d'hommes et de femmes, de chemins singuliers, je peux me reconnaître, en fait. Et le fait de voir quelqu'un à l'extérieur qui s'est donné une autorisation, moi, ça m'en donne. Et c'est ce processus-là qui m'intéresse aussi beaucoup. C'est ce qu'on vit dans un cercle, c'est-à-dire que dans un cercle, on entend des femmes qui se donnent des autorisations de dire non à leur mec, à leur boss, de dire oui, enfin je sais pas, de et ces autorisations là quand je vois une femme se la donner, tout d'un coup c'est comme si moi je pouvais me la donner, et c'est hyper libérateur aussi.
C'est un terme très important dans ton livre, tu en parles, de l'autorisation.
Ouais.
Alors, excuse-moi, c'est pas forcément lié, mais un petit peu quand même. Du coup, l'instinct maternel, ce qu'on appelle l'instinct maternel, le désir d'enfant, ça n'existe pas en fait. Ou ça existe. Est-ce que c'est purement féminin? Non, je sais pas. Je me suis toujours demandé, est-ce qu'on nous mentirait pas un peu? Tu vois, le fait de dire, une femme, si, elle a forcément besoin d'avoir des enfants.
Alors là-dessus, on nous ment. Oui, ça, c'est sûr. Non, ça, je suis complètement d'accord. Ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en tant que femme, on est obligé de se poser la question. Parce que la société fait que justement si on décide de pas avoir d'enfant, on va nous dire ah bon t'es sûre hein? Donc c'est une question qui se pose en tant que femme, peut-être qu'en tant qu'homme je pense qu'elle se pose aussi, mais peut-être de manière moins criante que en tant que femme, parce que en tant que femme on n'a pas la même horloge biologique et puis c'est nous qui portons les enfants dans notre corps, donc ça fait quand même des différences. Mais après, de dire que spontanément par exemple une mère d'instinct elle saurait aimer son enfant, s'en occuper, elle aurait besoin d'en avoir, etc., ça c'est complètement socialement construit, je pense. Et pourtant moi j'ai accouché naturellement, donc j'ai vécu ce moment de l'accouchement comme quelque chose de vraiment très proche de... sans péridurale.
Oh là là.
J'ai accouché de mon deuxième à la maison. Donc, vraiment comme si j'étais au plus proche de quelque chose qui pourrait être... Je mets vraiment des énormes guillemets quand je dis ça, mais naturel, instinctif, qui n'était pas du tout naturel, qui était vraiment un choix construit de ma part, mais sans intervention extérieure, etc. Et j'ai vraiment senti, par exemple, que, je ne sais pas, le fait de sentir l'odeur de mon bébé à sa naissance, il y avait quelque chose d'animal en moi qui se réveillait, de désir de protection, etc. Mais ça dure, je sais pas, quelques minutes, quelques jours. Après, je suis autant démunie que mon mari cet enfant qui arrive. J'ai autant envie de m'en occuper que lui, ou pas envie à certains moments. Enfin, voilà, tout ça, c'est... et donc, je crois que... Cet instinct maternel, c'est aussi ce qui fait que les femmes s'autorisent pas à se dire moi j'en veux pas, parce que il y a comme encore une croyance qui est construite socialement.
Ouais, je crois que tu as deux garçons, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu leur transmets? Qu'est-ce qu'il y a de plus important à leur transmettre selon toi en termes de... J'aime pas trop ce terme, mais en même temps j'ai pas trouvé d'équivalent, mais en termes de valeurs, en termes de tu vois, enfin, qu'est-ce qui est fondamental pour toi?
Donc je crois que quelque chose qui est fondamental pour moi, c'est vraiment le fait qu'ils soient capables de s'écouter, de savoir ce dont ils ont envie, de savoir... je pense que ça, c'est très important pour moi, parce que en tant qu'enfant, j'ai beaucoup grandi... j'ai beaucoup grandi dans une image. Je sais pas l'influence de mes parents ou ce qui était... Je pense que j'ai beaucoup collé à ça, c'est-à-dire essayer de croire, essayer de deviner ce que les autres attendent de moi pour me mettre à cette place-là, de la petite fille parfaite, notamment. Ben, Camille, c'est quand même la petite fille modèle. Désolée, je ne me suis pas appelée... je ne sais pas quoi. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à déconstruire. Et donc, c'est quelque chose d'important pour moi à apprendre à mes enfants. C'est pas facile, parce que ça veut dire que moi, en tant que mère, je dois un peu arrêter de leur dire ce qu'ils doivent faire. Enfin, évidemment, je leur dis, ils ont 6 et 7 ans, donc ils sont encore petits, mais ce matin, par exemple, mon fils qui voulait pas mettre son manteau, qui voulait mettre juste un deuxième pull pour sortir, à un moment, je lâche, en fait, parce que je me dis, le plus important, c'est que lui, il sache ce qu'il veut et qu'il sache dire ce qu'il veut. Voilà, ça pour moi, c'est... Et donc, du coup, si je sais ce que je veux, je sais aussi, je suis capable aussi de parler de ce qui se passe pour moi, de mes émotions. Je vais être dans cette forme d'authenticité.
T'es en dialogue, mais c'est surtout que t'es en dialogue avec ton enfant. Tu n'es pas en rapport... ce que je veux dire, c'est que t'as... En permettant à un enfant de s'écouter, tu lui permets aussi de se rapprocher de toi, au sens, il n'y a pas un rapport forcément d'autorité, de tu fais ça, tu dois faire ci, tu dois faire... Et c'est vrai que ça commence tout petit, en fait.
Oui. Bon, après, il y a aussi, j'avoue, un rapport d'autorité.
Non, mais bien sûr, c'est obligatoire. Mais je dis pas ça, mais oui. Après, outre mange ou lave-toi, ou... tu vois ce que je veux dire, mais peut-être à l'adolescence, dans ces cas-là, ça démarre peut-être un peu plus tard, mais c'est vrai, enlever la peur, en fait, parce que tu parles aussi de peur dans ton livre, mais... J'ai compris un truc avec le temps, c'est qu'on est dans la peur. Un enfant va mentir parce qu'il a peur de dire la vérité. Et je crois que le fait d'enlever la peur, ou en tout cas de la mesurer, je crois que la peur, et ça c'est pas seulement moi qui le dis, mais ça revient dans tous mes podcasts, la peur en fait est un peu partout dans plein de trucs.
Oui.
On s'en rend pas forcément compte. Et notamment chez les femmes, ça arrive à... J'ai peur d'être vulnérable, j'ai peur d'être fragile, j'ai peur d'être pas assez bien. Et là, je suis heureuse de voir qu'il y a un développement autour de... si, on est vulnérable, mais c'est une force en soi. C'est...
En fait, la force, elle est dans, justement, comme tu dis, arrêter d'avoir peur. C'est-à-dire développer la confiance. Et puis, pour moi, c'est vraiment arrêter de croire que... je peux être aimée que si je suis d'une certaine manière. En fait, c'est vraiment une histoire de valorisation. Tout ce que je vis, qui je suis, dans mes contradictions et dans même mes ombres et les choses que j'aime pas de moi, ça a de la valeur. Et c'est là où je dis réconcilier les différentes parties de soi. C'est que si je me dis, par exemple, que ma vulnérabilité, le fait d'avoir des émotions, le fait de pas savoir, de douter, je sais pas, tout ça, c'est négatif, je vais construire une énorme carapace là-dessus, mais en fait, je vais me couper d'une partie de moi-même. Et le processus, c'est de se dire, en fait, cette partie-là vulnérable, elle a des choses à m'apprendre, en fait, elle est utile. Et puis même, tout simplement, c'est moi. Donc, pour moi, tout ce travail, c'est aussi vraiment un travail de pouvoir aimer, regarder, me regarder en face et aimer ce que je vois, quoi.
Excuse-moi, mais en fait, c'est parce que je faisais un rapprochement entre... j'aime beaucoup ces deux notions que tu as utilisées, c'est l'enfant divin et la femme sauvage, c'est-à-dire que... une femme sauvage, entre guillemets, mais une femme qui assume d'être, en gros, qui elle est, quoi. C'est écouter son enfant intérieur, enfin, son...
Oui, c'est écouter... Donc, la femme sauvage, pour moi, c'est vraiment Clarissa Pinkola Estes qui en parle. Elle dit que les femmes, on a été muselées par la société et que du coup, elle fait dans son livre « Femmes qui courent avec les loups », Elle nous explique en fait plein de chemins pour sortir de ce musellement, sortir de ce patriarcat, sortir du rôle de la gentille bonne femme dans laquelle on nous a mise et dans laquelle on étouffe. Et donc pour ça, évidemment, c'est se reconnecter à donc l'enfant divin. Je me souvenais plus que j'avais parlé de ça.
Non, excuse-moi, mais c'est peut-être attends, je confonds peut-être, c'est peut-être pas dans ton livre directement, mais je crois que c'est peut-être ma lecture. Tu vois, après, en ayant écouté tes interviews, etc., donc c'est peut-être pas, c'est peut-être pas dans ton livre techniquement.
Mais c'est
j'ai
en fait.
Fait un rapprochement avec peut-être des développements ultérieurs.
Oui, t'as raison, c'est juste que, tu vois, j'en parle pas souvent, c'est pour ça que. Mais c'est la partie de nous. Donc c'est soit l'enfant que j'ai été dans son côté joyeux, c'est-à-dire c'est pas l'enfant blessé, mais c'est vraiment l'enfant libre en fait. Ouais. L'enfant divin, c'est l'enfant libre, mais c'est aussi ce potentiel de divin à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que c'est ne pas oublier qu'en tant qu'être humain, c'est pas juste quand tu disais tout à l'heure j'ai envie d'être celle que je veux, donc je vais mettre en place des choses pour être celle que je veux, faire ce que j'ai envie dans le monde. Et heureusement, on a de plus en plus les moyens de le faire. Mais c'est ne pas oublier qu'en fait, c'est pas que ma volonté, c'est aussi ce germe, moi, que j'appelle vraiment divin, c'est-à-dire cette plus grande partie qui est à l'intérieur de moi et qui va me permettre d'être juste aussi quand je mets en œuvre ma volonté. C'est-à-dire faire des choses, on est sur Terre pour faire des choses et moi j'ai une ambition, je sens, tu vois, qui est hyper importante et c'est important.
Bien sûr.
Mais se rappeler que cette ambition ou ce désir de faire ou cette volonté, elle est en lien avec quelque chose qui me dépasse. C'est pas juste moi et mes petits bras. Parce que si c'est juste moi et mes petits bras, on n'a pas fini. La Terre, elle va pas s'en sortir, quoi, si c'est juste notre volonté. Mais c'est apprendre à développer cette capacité à être au service de quelque chose de plus grand.
De plus grand que
et ça, moi, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est hyper porteur et hyper important, fait. Et tu vois, dans nos écoles de commerce, mais on nous apprend jamais ça. Pourtant, il y a plein de choses. Enfin, je me souviens, voilà, à l'ESSEC, la chaire d'entrepreneuriat social dont on parlait tout à l'heure, il y a une vision quand même qu'il faut qu'on fasse des choses pour sauver la planète, pour transformer le monde dans lequel on vit. Mais on perd quand même, je trouve qu'il manque cette dimension de comment je fais en fait pour m'ouvrir à cette partie-là qui est plus grande que moi. Je sais pas, on n'a pas le mode d'emploi. Pourtant, dans le monde du développement personnel, il y a des gens qui ont le mode d'emploi.
Bien sûr.
Et c'est comme si c'était pas encore assez diffusé partout. Ça nous empêche pas d'avoir envie de faire des choses, et bien sûr qu'il faut en faire. Mais laisser aussi, c'est-à-dire que c'est une image d'un homme que j'aime bien, une image que j'aime bien, cet homme, Christophe Boyer, qui dit, en fait, on est sur la mer. Et nous, ce qu'on a, c'est qu'on est sur ce bateau, on a juste la main sur le gouvernail. Je suis engagée, j'ai envie d'aller de l'autre côté, j'ai envie de changer le monde, mais par contre, faudrait pas que je me prenne pour la mer ni pour le vent, quoi. Donc j'ai besoin de faire avec ces forces-là si j'ai envie d'arriver à bon port. Je suis pas obligée de souffler dans ma voile ou de ramer.
C'est une très belle métaphore.
Mais comment je fais pour m'ouvrir à cette force du vent et de la mer? Déjà, c'est de reconnaître que j'ai que le gouvernail à la main.
Bien sûr. Et que je fais partie d'un tout et que je dois m'inscrire dans ce tout.
Et puis que je dois suivre quelque chose du courant, puis que je dois ouvrir mon écoute. Voilà, plein de choses.
Est-ce que tu as des projets actuellement de particulier, enfin, sauf si c'est secret, hein, tu peux absolument me dire non, je n'en parle pas, c'est complètement confidentiel et je ne veux pas parler. Tu peux tout à fait mais si tu veux pas, voilà, projet public.
En fait, je pense que l'année 2020, ça va être une année de grands changements dans ma vie perso. Donc, c'est ça, je sens, qui se trame. Et du coup, pas beaucoup de choses. Pas beaucoup de projets pro à venir. Okay. En même temps, j'aime bien. Enfin, je suis super contente, je sens, de commencer cette nouvelle année et aussi cette nouvelle décennie avec rien de prévu. Enfin, tu vois, dans cet état où...
C'est marrant
parce
que t'es pas la première personne à me dire ça. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui m'ont dit 2019, c'était la transition. 2020, ça va être l'explosion, genre la surprise ou tu vois... Alors c'est peut-être que je lis trop de trucs d'astrologie en ce moment, mais...
Écoute, je sais pas ce qui est dit au niveau astrologique, mais moi je sens que, justement, par rapport à ce dont tu parlais à l'instant, de me dire, j'ai pas... Parce que moi je suis quand même du genre à prévoir dans mon agenda jusqu'à décembre 2020, voire même mars 2021, tu vois, tout ce que je vais faire. Et là, du coup, ça me fait énormément de bien de volontairement pas savoir et puis de voir. Ouais. Évidemment, il va y avoir des projets qui vont arriver, mais voilà, pour l'instant...
Encore trois questions, après je te libère. J'aime bien poser la question à mes invités, mais t'es pas encore une fois obligé de me répondre ou d'avoir une réponse construite, etc. Mais qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vit en France aujourd'hui, tu vois, d'un point de vue général? Qu'est-ce que tu penses du climat français actuellement?
Je vois... En fait, moi j'ai l'impression de vivre dans un monde très différent que celui dont on parle dans les médias.
Ouais.
Et donc j'ai l'impression en fait que le climat français c'est comme une autre planète par rapport à ce que moi je vis dans les gens que je rencontre, dans les interactions que j'ai. J'ai l'impression de vivre l'environnement proche de moi, c'est un environnement où je ne vois que des gens qui se remettent en question, qui passent à l'action, qui sont en transition, qui sont en rupture, qui changent des choses, qui découvrent la valeur de leurs émotions, la valeur de prendre soin d'eux. Enfin, je vis en fait dans ce monde-là. Et donc, quand je regarde ce que les médias me présentent sur le climat français, j'ai vraiment l'impression de vivre sur une autre planète. Et je me dis, je pense à cette phrase, il suffit, enfin, c'est qu'une poignée de personnes qui vont changer le monde, quoi. Enfin, c'est-à-dire que moi, le monde dans lequel je vis, c'est ce monde où autour de moi, et je participe à contribuer à ce que de plus en plus de gens soient dans cet état de, en tout cas au moins, recherche d'harmonie, et de plus en plus d'harmonie intérieure, extérieure. Et je vois bien que c'est pas le cas de tout le monde. Mais en même temps, c'est juste là, quoi. Je sais que quand je dis ça, ça peut paraître assez naïf, et j'ai conscience que c'est que un regard sur la situation, mais je crois vraiment que c'est aussi ce travail-là, intérieur, qui fait que les choses vont changer à l'extérieur. Il y a besoin que les gens aillent dans la rue, manifestent, disent que ça va pas. Mais c'est vrai que moi, je suis sensible plutôt à ce travail-là intérieur, quoi.
Est-ce que tu as eu des coups de cœur récents, littéraires, cinématographiques, je sais pas, ça peut être une exposition, ça peut être un bouquin, ça peut être un film, ça peut être un truc, tu vois, récent. J'adore. T'es pas obligé de répondre.
C'est là que
répondre,
je me
hein.
dis, oh là là, je suis tellement pas assez.
Non, non,
je
mais
c'est,
après, ça peut être aussi. Non, mais ça peut être un livre référent, tu vois, enfin.
Donc là, il y a un livre peut-être dont j'ai envie de parler, c'est La femme tambour, qui est un livre qui est sorti chez Le Duc, aux éditions Le Duc la semaine dernière. Qui est un livre qui a été écrit par une Américaine, Lane Redmond, qui est décédée aujourd'hui, qui vient d'être traduit et qui parle des découvertes archéologiques. Elle a fait 15 ans de recherche archéologique sur la place des femmes et la place du tambour dans la... dans la préhistoire, mmh. et donc dans le rôle que ces femmes qui étaient les joueuses de tambour, dans le rôle qu'elles avaient, notamment dans, par rapport au culte de cette déesse mère. Hein. Donc pour moi, c'est un livre qui ouvre une nouvelle perspective sur voilà, ce qui s'est passé avant la naissance du patriarcat, avant la découverte de l'écriture, avant l'agriculture, dans une société dont on ne sait rien, sur mmh. laquelle on ne peut que projeter des choses. Mais voilà, ces recherches, elles tendent à montrer que les femmes, elles avaient un rôle particulier à cette époque-là de notre histoire collective. Et voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée.
Avant de te poser la question d'un coup de gueule, parce que je pose toujours cette question, c'est un coup de cœur et un coup de gueule. Mais juste avant, puisque tu as beaucoup parlé de ton livre, est-ce que tu as un regret à l'égard de la communication autour de ton bouquin ? Est-ce que tu as envie de dire encore quelque chose que tu n'as pas dit ? Tu vois, quelque chose qui... Un message, parce que ça fait maintenant à peu près un an et demi que tu l'as écrit, tu as certainement fait beaucoup d'interviews, mais je me demande si, tu vois, après un petit temps, les auteurs ont peut-être un truc à dire, tu vois, en plus.
En fait, je pense que si je l'écrivais aujourd'hui, je n'écrirais pas du tout la même chose.
D'accord.
Donc, c'est pas tellement... Je pense que...
C'est le principe
le message de mon livre, il a été bien relayé et je vois qu'il a beaucoup accompagné de femmes à se poser des questions justement sur qui elles sont en tant que femmes. Donc ça, c'est super. Mais je pense que... Ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, je dirais les choses différemment.
Ouais.
Notamment sur cette question du féminin qui, je pense, dans mon livre, est trop collée à cette dimension yin. Et du coup... Il y a quand même quelque chose qui est un peu enfermant dans le genre, quoi. Même si moi, dans mon cheminement, c'était vraiment nécessaire que cette question du genre, elle se pose comme ça et que j'aille récupérer des choses qui n'étaient pas valorisées, notamment le cycle, notamment le besoin de ralentir, de s'écouter, etc. Mais aujourd'hui, ça me paraît moins important que justement de s'ouvrir à cette dimension.
Parce qu'il y a eu beaucoup de choses sur le sujet. Enfin,
ouais,
tu as ouvert
bien
la
sûr,
voûte.
Ouais,
enfin,
ouais.
Je pense qu'au final, non. Il s'est inscrit dans un
temporalité. Dans un temps.
Voilà, et si ça se trouve, c'est parce que tu regardes les choses après où tu te dis... Ah ouais, ben en fait, ça s'appelle l'évolution. Donc non, moi, je pense que c'est plutôt... Enfin, excuse-moi, mais je crois qu'on peut toujours se dire ça quand on parle de sujets de société, de sujets sociologiques, on va dire. Du coup, est-ce que tu aurais, par hasard, un coup de gueule à passer ?
Un coup de gueule à passer.
Tu peux ne pas en avoir. Hein. C'est pas une obligation.
Je sais pas si j'en ai beaucoup.
Je force pas les gens du tout à avoir des coups de gueule. Mais quelque chose peut-être qui t'agace ou qui te contrarie, que t'as observé ou tu te dis dommage.
Non, je sais pas.
Parfait. Moi j'aime bien l'idée de pas avoir de coups de gueule, tu vois. Merci beaucoup Camille, c'était super d'échanger avec toi. Et écoute, belle route à toi.
Merci à toi aussi.
Merci.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.